Beaucoup de penseurs et de gens simples, autant les uns que les autres, sont embarrassés quand il s'agit de répondre à la question la plus cruciale concernant notre vie. Pourquoi existons-nous et quel est le but de notre existence? Le Coran a défini très explicitement et très précisément l'objectif et le but de l'existence de l'homme en ce monde dans sa parole où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Dhariyat verset 56 وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Dans d'autres versets, Allah tabaraka wa ta'ala a cité aussi dans sourate Al-Mulk versets 1 et 2 « Béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant et le pardonneur » dans le sens des versets. Donc là on voit qu'Allah Ta'ala a cité dans sourate Al-Dhariyat que l'objectif de la création de l'être humain, c'est pour que l'être humain adore Allah. On voit ici d'une manière différente qu'Allah a créé la mort et la vie pour nous éprouver, pour voir lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. Il a aussi dit dans sourate Al-Talaq, verset 12, dans le sens des versets, « Allah qui a créé les sept cieux et autant de terres, entre eux son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. » Donc, ici, Allah Ta'ala, dans surat Al-Talaq, il dit, il a créé les cieux et la terre, pourquoi? Pour qu'on connaisse les noms et les attributs d'Allah. Afin que vous sachiez qu'Allah est omnipotent et qu'Allah a embrassé de sa science toutes choses. Donc, dans le Coran, il y a ces trois versets qui viennent expliquer l'objectif de la vie de l'être humain. Il a créé la mort et la vie pour savoir lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. Il a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre eux pour qu'on connaisse les noms et les attributs d'Allah, qu'on apprenne à connaître les noms et les attributs d'Allah, c'est-à-dire qu'on apprenne à connaître Allah à travers ses noms et ses attributs. Et plus généralement, il a créé les djinns et les hommes pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Voilà le seul objectif pour lequel Allah nous a créé. Certains vont dire, ah bon, donc j'arrête tout, j'arrête de travailler, je divorce mon épouse, je vais dans une mosquée, je bois du zamzam, je mange des dattes et j'adore Allah du matin au soir, je jeûne la journée, je prie la nuit. Je ne connais plus personne. C'est juste, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, trois personnes sont venues se renseigner sur les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison. Ils sont venus demander à qui? À Aïcha radhiyallahu anha. Comment était l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment était sa vie? Comment était sa nuit? Quand ils ont demandé, ils ont trouvé ça peu. Ils ont trouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait une partie de la nuit, il priait une partie de la nuit. Il jeûnait certains jours, il rompait d'autres jours. Comme a dit Aïcha, quand tu voulais le trouver en état de jeûne, tu le trouvais. C'est-à-dire, parfois comme ça, tellement tu le trouvais en état de jeûne, tu te disais, il jeûne tout le temps. Et tellement tu le trouvais en état de rupture qu'il ne jeûne pas, que tu te disais, non, il ne jeûne jamais. Tu voulais trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état de jeûne, il jeûnait. Et souvent, on le trouvait aussi qu'il n'était pas en état de jeûne. Tu voulais le trouver la nuit en train de prier, tu le voyais prier. Et parfois et souvent, tu le voyais dormir. Et il se mariait avec les femmes. Ils sont partis, ils ont dit, oui, mais celui, c'est le prophète d'Allah. Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Nous, on ne peut pas se permettre d'en faire si peu. Il faut qu'on en fasse plus. Donc, un, il a dit, moi, je jeûne toute la vie, sans jamais rompre. C'est-à-dire, attention, il mange, là, sinon il ne va pas vivre. Il mange le soir, mais tous les jours, il jeûne. Un autre, il a dit, moi, je prie toutes les nuits, sans jamais dormir. Dès que la nuit, elle arrive, je prie jusqu'au matin. Sans jamais dormir, tout le temps. Et l'autre, il a dit, moi, je ne me marie pas avec les femmes. Je m'éloigne des femmes. Ceci est arrivé aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il a adressé un discours à tout le monde. Et ceci était une manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam de reprendre les gens qui faisaient l'erreur sans les nommer. Il disait, ma balu aqwamin. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Certains gens, qu'est-ce qu'ils ont à faire telle et telle chose? Certains gens, pour ne pas les humilier devant tout le monde. Le message leur arrive, Le message arrive aux autres, donc l'objectif est atteint, tout en préservant leur anonymat. Et en ne les humiliant pas, en ne les rabaissant pas devant tout le monde, quand c'était nécessaire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent il reprenait des erreurs qui étaient faites de cette manière-là. Ma balu aqwamin. Qu'est-ce qu'ils ont certains gens à faire telle et telle chose? J'ai entendu telle et telle chose. Qu'est-ce qu'ils ont ces gens à faire? Il le disait en public, devant tout le monde. Il n'a pas appelé ces gens pour leur dire en privé. Il l'a dit en public devant tout le monde. Ceux qui savaient, ils savaient. Aïcha radhiallahu anha, elle savait c'était qui. Ceux qui ont entendu l'histoire, ils savaient qui ils visaient. Ceux qui ne savaient pas, ils n'avaient pas besoin de savoir. L'information leur est arrivée. C'est ça l'important. Donc, il a pris la parole, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, certains sont venus, il a dit, un a dit ça, le deuxième a dit ça, le troisième a dit ça. Il a dit, moi, je crains Allah plus que vous. Je suis plus proche d'Allah que vous et je crains Allah plus que vous. Pourtant, je prie une partie de la nuit et je dors une partie de la nuit. Je jeûne et je romps et je me marie avec les femmes. Celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie des miens, ne fait pas partie des nôtres. C'est-à-dire, celui qui s'interdit ces choses-là, il ne fait pas partie des nôtres. Il ne suit pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a innové dans la religion. Car il a fait ces choses-là, il s'est interdit ces choses-là en pensant que cela va l'approcher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, quand ici l'auteur cite et dit qu'Allah nous a créé, le seul objectif pour lequel Allah nous a créé dans l'existence, c'est l'adoration. Il dit, il précise après, l'adoration, le culte, ibadah, est donc le but de notre existence sur cette terre. Toutes les autres choses ne sont que moyens intermédiaires, accessoires ou éléments complémentaires. Cependant, l'adoration dans la conception islamique ne signifie pas de mener une vie monacale, se retirer de la vie et des plaisirs et de ses jouissances. Mais outre la prière, le jeûne, l'aumône, elle inclut aussi les actes de l'homme dans sa vie de tous les jours. Toutes ses activités, ses paroles, ses inventions, ses relations et même son divertissement et ses moments de plaisir, si tout cela, à deux conditions, si tout cela est accompagné d'une bonne intention et d'une volonté louable, et la deuxième condition, c'est que ce soit fait d'une manière conforme à la législation islamique. Voilà ce qui explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand vous vous approchez de vos femmes, vous en gagnez la récompense d'une aumône. » Donc quand quelqu'un fait l'acte charnel avec sa femme, il en gagne des hasanats. Ceci veut dire que le musulman reçoit des récompenses et des bonnes actions, même quand il prend du plaisir avec son épouse. Tout en étant le but de la vie, l'adoration devient ainsi la vie elle-même. Et le musulman passe alors d'un type d'adoration à un autre type d'adoration, conformément à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, quand il dit dans Sourate Al-An'am, verset 62, « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin » dit « Ma salat, ma prière, mon sacrifice ou bien mérite, ma vie et ma mort » appartiennent à Allah, Seigneur et Maître de l'univers. Donc, on voit ici quel est le but de l'existence. Donc, on a dit, c'était quoi le but de l'existence? C'est adorer Allah. Est-ce que adorer Allah, cela veut dire de se retirer de la vie et d'arrêter toute chose en dehors de l'adoration dans son sens propre? Non. Mais cela veut dire que l'on adore Allah. On vit notre vie entière comme il plaît à Allah. Au moment de la prière, on fait la prière. Au moment du jeûne, on fait le jeûne. Quand on commerce selon ce qu'Allah aime. Quand on se distrait, on se divertit, on le fait d'une manière qui plaît à Allah et avec une intention, une bonne intention, c'est-à-dire l'intention de se libérer un peu l'esprit pour retrouver de la force pour les bonnes actions, etc. Même quand on fait un sport physique, on le fait dans les règles de l'islam et avec une bonne intention. Avec l'intention que cela nous renforce pour les actes d'adoration, pour défendre la religion d'Allah s'il en est nécessaire, etc. De cette manière-là, la personne, elle transforme tous ses actes, même son sommeil, même son manger, même son moment de plaisir, en quoi? En adoration. S'il a une quoi? Quelles sont les deux conditions? Une bonne intention et la conformité avec la législation.